Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la deuxième partie du cours 5 qui concerne la divinisation du chrétien ou du fidèle. Et ce cours-ci va être consacré à ce que dit Maître Eckhart à ce sujet. Donc en introduction, je voudrais quand même vous présenter Maître Eckhart, vous parler un peu de sa vie et de ses œuvres, tout en sachant que la vie d'Eckhart est peu connu parce que ne parlant que de Dieu, il ne prend pas la peine d'évoquer sa propre vie. Celle-ci transparaît surtout au fil circonstancié de ses séjours à Erfurt, Paris, Strasbourg, Cologne et des œuvres qui y font suite. Eckhart est né vers 1260 à Tambach dans une famille thuringienne de Hohheim. Il entre chez les dominicains d'Erfurt aux environs de 1274. De ses premières années de sa vie conventuelle et de formation, nous ne savons à peu près rien. Le premier document nous donnant un renseignement exact est le sermon pascal du 18 avril 1294, rédigé par Fratres Eckhardus, lector sententiarum, frère Eckhart, lecteur des sentences. En effet, dans les années 1293-1294, Eckhart commente les sentences de Pierre Lombard à Paris. Alors, les sentences de Pierre Lombard, c'était le manuel de théologie de l'époque. Et tous les universitaires, tous les maîtres pour devenir maître en théologie, on devait absolument commenter ces sentences-là. Il revient de ce premier séjour parisien en Rhénanie, où l'ordre des frères prêcheurs lui confie rapidement des responsabilités. De 1294 à 1298, il est prieur d'Erfurt et vicaire de la province de Thuringe. Pendant cette période, il rédige les entretiens spirituels. Entre 1303 et 1311, il est nommé prieur de la province de Saxe. En 1307, il est de surcroît nommé vicaire général de Bohême. Cette fonction lui donne la mission de visiter et de réformer des couvents de la région. Enfin, dans les années 1323-1324, Eckhart est nommé théologien du Studium Generale de Cologne, où il prêche en allemand. Ses charges en Rhénanie sont entrecoupées par deux séjours parisiens. En 1302-1303, il est nommé maître à l'Université de Paris et rédige ses trois premières questions parisiennes dans lesquelles il débat avec le franciscain Gonzalve d'Espagne. Alors, les dominicains et les franciscains s'opposaient surtout sur la question de savoir qu'est-ce qui constituait l'image de Dieu en l'homme, les dominicains insistant sur l'intellect, les franciscains insistant sur la volonté. Une dizaine d'années plus tard, de 1311 à 1313, il effectue son second magistère parisien où il rédige les questions parisiennes 4 et 5 et met en chantier sa grande œuvre, l'Opus Tripartitum, l'œuvre tripartite qu'il ne rédigera pas. Il nous reste de cette œuvre-là que deux prologues. Seul Thomas d'Aquin avait pu bénéficier d'une telle charge honorifique. Et pendant ce temps-là, Marguerite Porrette, une béguine du Hainaut, est consumée sur le bûcher le 1er juin 1310 en place de Grève à Paris. C'est pour vous dire que la période est mouvementée, elle est pleine d'hérésie, l'hérésie du libre-esprit, on en parlera par Zoom si vous voulez, les béguines sont suspectes d'appartenir à cet ordre, enfin à ce mouvement, et sont suspectes d'hérésie. Eckhart ne retourne pas à Cologne, mais est appelé à Strasbourg comme vicaire général, où on lui confie le rôle de directeur spirituel des moniales, des ordres et tiers ordres dominicains et des béguinages. Les béguinages s'épanouissent à un point tel que Strasbourg en compte 85. Au moment même où l'évêque entame, en août 1317, une action contre cette forme de vie inédite, communautaire. Eckhart, par son verbe, y trouvera un succès qui se révélera pour lui tragique. L'époque de son procès commence dès 1325. Sur la dénonciation de deux de ses collègues, Hermann de Soumo et Guillaume de Nideck, Nicolas de Strasbourg, fidèle ami des cartes, ouvre le 1er août une enquête disciplinaire en même temps qu'une action est entamée contre l'un des plus grands livres en langue allemande des cartes, le livre de la consolation divine. Ces années marquent la dernière période de sa vie. C'est peut-être, funeste fortune, la période la plus connue de la vie du maître. Elle est contemporaine de la condamnation des Béguines et des Bégards à Cologne et se déroule 15 ans après la mort de Marguerite Porrette. Un tel climat délétère a certainement nui au maître, soupçonné d'hétérodoxie et reproché d'enseigner aux vulgaires ignorants et crédules ce qu'ils ne sauraient entendre. Eckhart rédige un tractatus requisitus, une défense, qui sera par la suite attaquée. En 1326, Henri de Viernebourg rédige une liste de 49 propositions jugées condamnables auxquelles le maître répond. Le 26 septembre 1326, Eckhart comparaît devant deux commissaires épiscopaux chargés de son inquisition à la suite d'une deuxième liste de 59 propositions. Une troisième liste ne tardera pas à suivre. Le 24 janvier 1327, Eckhart comparaît dans la salle du chapitre de la cathédrale de Cologne. Son secrétaire, Conrad de Halberstadt, fait appel en son nom au pape, tandis qu'Eckhart proteste publiquement de son innocence par un sermon prononcé en la cathédrale colonnaise. Le 22 février 1327, l'appel d'Eckhart est rejeté. Il quitte Cologne pour aller en Avignon porter son propre dossier au pape Jean XXII. Le Votum Avignonense, résultat de la commission pontificale des théologiens, condamne 28 propositions écartiennes. De ces 28 propositions, les 15 premiers articles mentionnés et aussi les deux derniers, tant par les termes employés que par l'enchaînement des idées, contiennent des erreurs et sont entachés d'hérésie, tandis que les 11 autres sont déclarés malsonnants, très téméraires et suspects d'hérésie. Eckhart meurt sur le chemin du retour, ignorant ce verdict. Eckhart est donc un théologien, un philosophe, un prédicateur, un mystique. Il a construit en langue latine et vernaculaire, c'est-à-dire en langue maternelle, une œuvre très riche. On y trouve les développements dans les domaines suivants. Dans la métaphysique, l'ontologie, l'anthropologie, l'exégèse, la noétique, la vision béatifique et, pour ce qui nous intéresse ici, sur la divinisation. Pour que celle-ci s'opère en l'âme, il y a un réquisite, que l'homme soit détaché. Alors, grand 1, le détachement. L'imitation des saints et l'imitation du Christ a toujours été considérée comme la voie la plus appropriée vers la sainteté et ou la divinisation de l'âme humaine. Eckhart y voit le risque de l'attachement au modèle et pire encore à soi-même en tant qu'auteur d'actes justes et bons. Eckhart préconise une autre voie qu'il appelle le détachement. Néanmoins, il nous semble qu'Eckhart prolonge la réflexion d'origine origénienne, Origène étant un des pères de l'Église grecque, sur l'imitation en lui donnant le nom de détachement. Ce sont notamment les entretiens spirituels, entretiens que le vicaire de Thuringe, prieur d'Erfurt, frère Eckhart, de l'ordre des frères prêcheurs, eut avec des fils spirituels qui lui posaient maintes questions pendant leur discussion du soir, qui précisent cette voie. Confronté à des questions pratiques de spiritualité, Eckhart donne aux novices, à ses enfants, des conseils ou instructions qui nous sont livrés sous la forme d'un manuel. Les entretiens spirituels, distribués en 23 chapitres, commencent avec la question de l'obéissance pour développer ensuite, chapitre par chapitre, des analyses sur les différentes vertus qui, règles des ordres monastiques, peuvent être étendues à tous les hommes. L'imitatio Christi, l'imitation du Christ, est à l'origine de toutes les règles monastiques et conventuelles qui tentent de reproduire et d'imiter le mode de vie évangélique qui était celui du Christ. Au XIIe et XIIIe siècle, elle prit de nouvelles formes, telles l'amor carnalis, l'amour de la chair du Christ, chez Bernard de Clairvaux. C'est pourquoi les chapitres 1 à 8 traitent des vœux prononcés par les futurs dominicains lors de leur entrée dans l'ordre. Eckhart n'établit pas de lien entre la discipline monastique et l'imitation du Christ. L'une des raisons est qu'il n'entend pas seulement parler au clair, mais qu'il souhaite donner une portée universelle à son propos. Si son discours s'ancre dans la vie pratique et quotidienne de l'ordre dominicain, sa portée est universelle. Au fur et à mesure des chapitres, se constitue une véritable métaphysique. Obéissance, pauvreté, humilité, etc. ont certes une portée pratique, mais ce qui intéresse Eckhart est ce qui les constitue métaphysiquement comme de véritables vertus et l'attitude conséquente que l'on doit avoir pour pouvoir les posséder en vérité et non pas seulement de manière extérieure. Ainsi, l'obéissance n'est-elle pas envisagée dans son aspect monastique et ascétique ? Très vite, elle est associée au thème de l'abandon de sa volonté propre à la volonté divine. Je vous lis le premier texte. Si l'homme sort de lui-même dans l'obéissance, Dieu doit nécessairement entrer en lui. Pour celui qui ne veut rien pour lui-même, Dieu doit vouloir de la même manière que pour lui-même. Lorsque, sorti de ma propre volonté, j'ai remis celle-ci entre les mains de mon supérieur et que je ne veux rien pour moi, Dieu doit vouloir pour moi. Et ce qu'il néglige alors à mon endroit, il le néglige à son propre endroit. Ainsi en va-t-il dans toute chose. Là où je ne veux pas pour moi-même, Dieu veut à ma place. Mais faites attention. Que voudra-t-il donc pour moi si je ne veux pas pour moi-même ? Quand je me laisse moi-même, il doit nécessairement vouloir pour moi tout ce qu'il veut pour lui-même. Et si Dieu ne le faisait pas, par la vérité qui est Dieu, Dieu ne serait pas juste et ne serait pas Dieu, ce qui est pour autant son essence et sa nature. La véritable obéissance consiste donc à sortir de soi afin de laisser la place libre pour Dieu, à délaisser sa volonté propre pour être soi-même le lieu de la volonté divine. À la sortie hors de soi correspond en parallèle l'entrée de Dieu en l'âme. Ce n'est donc pas tant l'homme qui veut à partir de sa volonté individuelle que la volonté divine se manifeste en elle. L'obéissance véritable se trouve dans l'accomplissement de la volonté divine par l'abandon à Dieu de toute forme de volonté particulière, déterminée et créée. Plus, l'abandon ou le délaissement de sa volonté propre contraint Dieu à vouloir pour l'homme de la même manière qu'il veut pour lui-même. S'étant libéré de sa volonté particulière, l'homme, loin d'être assujetti à la volonté divine, la contraint à le prendre comme suppôt de sa manifestation. Le deuxième chapitre fait une analyse analogue. La véritable prière n'est pas celle qui sort de ma volonté ou de mon désir, mais d'un esprit libre. Or, je vous lis un deuxième texte, un esprit libre est celui qui n'est troublé par rien et n'est attaché à rien, qui n'a lié le meilleur de lui-même à aucun mode et ne songe en rien à ce qui est sien. Complètement englouti dans la très chère volonté de Dieu, il est sorti de lui-même. Personne ne peut accomplir une œuvre, si modeste soit-elle, qu'elle ne tire de là sa force et sa puissance. En mentionnant l'esprit libre, Eckhart s'empare d'un vocable marqué du danger de l'hérésie. Il y a une allusion certaine au courant du libre-esprit auquel les inquisiteurs ont rattaché Marguerite Porrette, que j'ai mentionné dans l'introduction. De fait, s'il y a des concordances doctrinales, ni Marguerite Porrette, ni Maître Eckhart ne parlent d'une divinisation dont l'âme seule serait l'actrice. L'esprit libre et la théogénésie, c'est-à-dire la naissance de Dieu, sont les fruits du don gracieux de Dieu et non d'un homme qui entendrait se faire soi-même Dieu par ses propres forces. L'esprit vide et libre, hors de lui, qui se rend disponible pour être le lieu de la réception de Dieu peut être assimilée à l'âme capable de Dieu, capable de recevoir la volonté divine et toutes les perfections essentielles de la sagesse divine. Un tel esprit est le don de la grâce. Dans le troisième chapitre, Eckhart précisera comment atteindre cette libre vacuité. Commence donc tout d'abord par toi-même et laisse-toi. En vérité, si tu ne te fuis pas d'abord toi-même, tu auras beau fuir où tu voudras, tu trouveras des obstacles et de l'inquiétude partout. Certains cherchent la paix dans les choses extérieures, dans le choix d'un lieu de retraite, dans telle façon de faire, dans la société des hommes ou dans les œuvres, dans l'abandon de leur patrie, dans la pauvreté ou l'abaissement. Quelle qu'en soit la grandeur ou la nature, tout cela, pourtant, ne compte pas et ne donne pas la paix. Ils cherchent fort mal ceux qui cherchent ainsi. Plus ils s'éloignent, moins ils trouvent ce qu'ils cherchent. Ils vont comme celui qui s'est trompé de chemin. Plus ils avancent, plus ils s'égarent. L'optique écartienne est de tonalité augustinienne. Comme Augustin, le maître nous engage à la fois à une vie pratique de conversion et de retour en soi et à une forme de libération purificatrice vis-à-vis de notre insertion native de notre moi créé dans le monde extérieur. Maître Eckhart est clair et incisif. Tout ce qui relève de l'action extérieure, des œuvres ou de la recherche de conditions de spiritualité optimale, tout cela est rien si l'on ne sait pas délaissé, si l'on n'a pas abandonné, si l'on ne s'est pas abandonné à la volonté de Dieu. L'imitation des saints, voire une certaine imitation servile et mal comprise du Christ en fait partie. La même logique peut s'y appliquer. L'imitation, en effet, peut se cantonner à n'être qu'une conformation extérieure à un modèle et à n'être que le fruit de sa propre volonté, qui a pour conséquence une forme d'attachement non seulement au modèle, mais aussi à soi-même. Pourtant, dans les propos Descartes concernant l'obéissance et l'abandon de sa volonté propre, on ne peut pas ne pas voir sous-jacent l'abandon de la volonté du Christ à celle du Père, tel qu'on le trouve chez saint Matthieu. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Cet abandon de la volonté humaine du Christ à celle du Père est ce à quoi nous devons nous conformer. Il est le cœur de la kénose divine. Le Christ accepte l'abaissement de sa nature divine jusque dans l'acceptation de son martyre. Le chapitre 16, traitant de la pénitence, distingue la pénitence accomplie au moyen des actes extérieurs, simulacre de pénitence dans l'implication qu'elle suppose de notre propre ego, et la véritable pénitence dont le modèle est la passion du Christ, l'abandon de son moi humain propre. Je vous lis un quatrième texte. Beaucoup de gens estiment qu'ils doivent accomplir de grandes œuvres extérieures. Jeûner, marcher pieds nus, faire ce que l'on appelle pénitence. Mais la véritable pénitence, la meilleure de toutes, par laquelle on s'amende puissamment et au plus haut point, c'est que l'homme se détourne radicalement et totalement de tout ce qui n'est pas complètement Dieu, ni de nature divine en lui-même et dans toutes les créatures, et de façon inébranlable, fasse un retour total et parfait vers Dieu, de façon que sa ferveur et son désir soient grands. L'œuvre que tu fais avec le plus de dispositions semblables est aussi celle où tu es le plus juste. Telle est la vraie pénitence. Elle nous est enseignée surtout et de façon la plus profitable par la chère passion, la pénitence parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus l'homme s'y associe par la pensée, plus il est libéré du péché et de la punition du péché. En tout ce qu'il fait et en tout temps, l'homme doit aussi s'habituer dans la vie et les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient ses actions et ses omissions, avec ses souffrances et sa vie. Bref, il doit s'habituer à penser toujours à lui comme il a pensé à nous. Voilà ce qu'est cette pénitence. C'est un esprit qui, en Dieu, s'est entièrement élevé au-delà de toute chose. Les œuvres à travers lesquelles il est possible d'avoir le mieux et de posséder réellement un tel cœur, accomplis-les donc en toute liberté. Si quelque œuvre extérieure, le jeûne, la lecture ou n'importe quoi t'en empêche, renonce sans scrupule à cette œuvre et ne crains pas de négliger ainsi, de façon ou d'une autre, la pénitence. Car Dieu ne regarde pas les œuvres en soi, mais uniquement ce qu'il y a d'amour, de ferveur et d'esprit dans les œuvres. peu lui importe nos œuvres. La seule chose qui l'intéresse, c'est la disposition d'esprit que nous apportons à nos œuvres, l'amour que nous y manifestons pour lui seul. Nos actes de pénitence sont renvoyés à l'intention qui les préside. C'est elle qui permet de les mesurer axiologiquement et ontologiquement et de décider s'ils sont de véritables actes de contrition. La mesure n'est pas donnée par la quantité ou la qualité des actes effectués, mais par la nature de la disposition qui préside à l'action. Maître Eckhart ne demande pas grand-chose, mais il demande tout, s'abandonner soi-même afin de s'unir à la volonté christique. On comprend alors pourquoi Maître Eckhart n'insiste pas sur les œuvres comme moyen de rédemption et de sanctification. Il est plus radical que pourrait l'être n'importe quel propos ascétique. Dans une œuvre de pénitence ou d'ascèse, quelle qu'elle soit, c'est bien la volonté humaine qui s'efforce et agit. La volonté est dès lors attachée à elle-même et aux résultats escomptés. C'est ceci qui est en trop, de trop, à savoir l'attachement à soi comme sujet individualisé des actions. Eckhart nous libère de toute forme d'ascétisme contraint et d'un misérabilisme aliénant. Mais il demande plus et plus radicalement l'abandon de notre ego, de notre moi créé et déterminé, de cet ego auquel chacun est spontanément attaché. En d'autres termes, nous ne devons pas être, par un acte de la volonté, à la suite du Christ, des disciples imparfaits, imitateurs angoissés et soumis dans notre volonté à un modèle parfait inégalable. L'expérience humaine de la défaillance ou de la faiblesse trouve sa consolation dans la présence permanente de Dieu. Dieu nous juge moins sévèrement que nous-mêmes pouvons le faire. Ainsi, et je lis le texte 5, « Les hommes peuvent bien avoir peur et se décourager à l'idée que la vie de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ et aussi celle des saints qui ont été si durs et si pénibles que nous devons les égaler et n'y sommes même pas incités. Aussi les hommes, parce qu'ils se trouvent si inégaux à cet égard, se croient souvent loin de Dieu et incapables de le suivre. Personne ne doit jamais s'abandonner à cette pensée. » Que l'homme soit près de ou loin, Dieu, lui, ne s'éloigne jamais. Plus profondément encore, nous pouvons voir dans cette présence confiante de Dieu un respect de notre personne qui vient préciser ce qu'Eckhart entend par l'abandon de notre volonté propre. Cet abandon ne signifie pas une uniformité dissolvante des volontés. C'est ce qui est difficile à saisir chez Eckhart. Ne plus avoir de moi propre ne signifie pas la négation de l'identité de notre personne ou de son altérité ou de son ipséité. Dieu ne demande pas l'abandon de la volonté propre sans aucune intelligence de notre personnalité. Revient à l'homme le rôle de s'abandonner, mais à cet acte de délaissement répond la connaissance divine et miséricordieuse de nos personnalités. Voilà, je vous lis le sixième texte. Quant à imiter rigoureusement notre Seigneur et les saints, vois bien ce que doit être en réalité cette imitation pour toi. Il faut que tu comprennes et que tu retiennes à quoi Dieu t'exhorte le plus nettement. Saint Paul ne dit-il pas que tous les hommes ne sont pas appelés à Dieu par la même voie ? Si tu trouves donc que ta voie la plus proche ne passe point par beaucoup d'œuvres extérieures, par de grands travaux ou de grandes privations, cela n'a d'ailleurs pas grande importance, à moins que l'homme n'y soit particulièrement poussé par Dieu et n'ait la force d'agir bien de la sorte sans troubler sa vie intérieure. Si tu ne trouves pas tout cela en toi, tranquillise-toi et ne t'en inquiète pas outre mesure. Chaque homme ne peut avoir une seule manière d'agir et tous les hommes ne peuvent avoir la même. Et un même homme ne peut avoir toutes les manières d'agir ni avoir celle de chacun. Mais tu pourrais dire, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours la manière d'agir la plus haute, le suivre toujours, voilà ce qui serait juste. C'est vrai, il est juste de suivre notre Seigneur, mais pas à tout point de vue. Notre Seigneur a jeûné 40 jours, personne ne doit prendre sur lui d'en faire autant. Le Christ a fait beaucoup d'œuvres dans lesquelles nous devons le suivre en esprit, mais non dans la réalité corporelle. Il faut donc s'appliquer à le suivre intellectuellement, car il attache plus de prix à notre amour qu'à nos œuvres. Nous devons toujours le suivre selon notre propre manière. Le Christ a jeûné 40 jours. Imite-le en recherchant tes penchants les plus forts et tes dispositions principales. Sur ces points, applique-toi et surveille-toi. Il vaut mieux pour toi renoncer sans regret à satisfaire ses penchants que de t'abstenir de toute nourriture. De même, il t'est parfois plus difficile de taire un mot que de ne point parler du tout. Quelquefois, un homme a plus de mal à supporter une petite parole injurieuse qui ne tire pas à conséquence que peut-être un grand coup auquel il s'attendait. Il trouve bien plus dur d'être isolé dans la foule que dans le désert. Il lui est plus pénible de renoncer à une petite chose qu'à une grande, d'accomplir une petite œuvre plutôt qu'une autre que l'on juge grande. C'est ainsi que, même dans sa faiblesse, l'homme peut imiter parfaitement notre Seigneur, et il n'a ni le droit ni le devoir de penser qu'il est loin de lui. Ce texte est une forme d'apologie de la liberté, aussi bien divine qu'humaine. À l'encontre de toute forme de rigorisme ascétique, figé et culpabilisant, Eckhart fait montre de souplesse et de grand finesse psychologique lorsqu'il s'agit d'appliquer à l'individu une structure métaphysique qui, elle, est infrangible. L'essentiel n'est pas dans ce qui est accompli à l'extérieur, sous le poids d'un modèle, mais dans la connaissance et le progrès d'un soi tel qu'il les a voulu et prévu de toute telle que les a voulu et prévu la volonté de Dieu. Eckhart souligne à plusieurs reprises, dans la lignée philosophique inaugurée par Socrate, médiée par Origène, Augustin et Bernard de Clairvaux, l'importance de la connaissance de soi. Le sermon de l'homme noble montre ainsi que c'est en découvrant son intériorité que l'on découvre en même temps la présence intime de Dieu en l'âme. L'éthique qui s'ensuit est une éthique de la personne. Dieu demande l'abandon de notre volonté propre dans la connaissance de sa singularité et de sa capacité. Revient à l'homme le rôle de s'abandonner, à Dieu celui de connaître ce qui lui est abandonné et livré. Des actions minimes sont, aux yeux de Dieu, aussi parfaites que des actions grandioses selon l'échelle des valeurs humaines. La mesure de Dieu est sans mesure. Les exemples d'Eckhart nous le montrent, de petites choses réalisées en Dieu ont autant de valeur que les grandes. Eckhart nous met en garde, en même temps, contre toute duperie ou charlatanisme. Cela suppose de notre part une application intellectuelle. L'abandon de notre volonté propre à la volonté divine est donc, de façon primordiale, un acte intellectif de discernement. Il revient à chacun la responsabilité de comprendre les modalités de l'abandon. Selon la formulation donnée par Olivier Boulnois, qui est un médiéviste et qui a été mon directeur de thèse, Eckhart est, je le cite, « le théoricien de la désappropriation. Par le détachement, l'homme perd son moi déterminé et illusoire, mais gagne son moi essentiel, celui qui est image de Dieu. » Eckhart nous engage, dans la pratique du détachement, à la pauvreté absolue, telle qu'il l'a définie dans le célèbre sermon allemand 52. Je ne vous lis pas parce que ça serait très long, mais je vous demande de vous référer au PDF qui vous ont été envoyés. Le sermon 52 prend appui sur Matthieu 5:3. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans un esprit similaire aux entretiens spirituels, mais néanmoins plus corrosif, il qualifie d'âne ceux qui, aux yeux du monde, passent pour des saints. Ceux-ci ne sont pas pauvres, qui restent encore attachés à la mise en pratique de leur volonté. Mais ce sermon se distingue encore par sa radicalité. Celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien, ne sait rien et n'a rien. Ne rien vouloir, ce n'est plus seulement rejeter les biens proposés à la volonté, ni même rejeter sa volonté, mais plus encore, ne pas vouloir la volonté du Dieu en tant que cette volonté divine est une volonté créée. La même radicalité est appliquée au savoir. Il ne s'agit plus seulement de vivre en ne sachant pas pourquoi l'on vit, afin de laisser vivre Dieu en soi. Plus, il faut vivre sans savoir si Dieu vit en soi et comment il y vit. Ne rien avoir, enfin, ne consiste pas seulement à se libérer de toute possession matérielle, ni même à se libérer de la possession d'un moi pour laisser place à Dieu. Par rapport aux entretiens spirituels, il y a un passage à la limite de ce qui peut être pensé et dit de la pauvreté. De même qu'on l'on ne doit rien vouloir, par même la volonté divine, de même que l'on ne doit rien savoir, pas même la science divine, il nous faut ne rien avoir, pas même un support ou un lieu pour l'opération divine. Dieu se fait en l'âme le lieu de sa propre opération. L'homme pauvre est donc l'image de Dieu. Il est redevenu l'image pure et ressemblante de Dieu. Il est le reflet ou le miroir poli et scintillant de la divinité. Il n'est pas le lieu où Dieu opère, mais il est lui-même Dieu, et Dieu n'a pas d'autre lieu que Dieu. La créature n'est pourtant pas anéantie ou dissoute en tant que telle, et elle reste, par sa nature créée, le support de la manifestation de Dieu. L'anéantissement en Dieu n'est pas l'annihilation de la conscience. Eckhart le rappelle souvent. Je l'ai dit bien des fois déjà. Quelqu'un serait-il dans le ravissement, comme jadis saint Paul, s'il apprenait qu'un infirme a besoin d'un peu de soupe qu'il pourrait lui donner? J'estime qu'il ferait mieux de renoncer par charité à son ravissement et de servir l'indigent avec plus d'amour. Si les œuvres ne sanctifient pas, elles restent néanmoins le signe de la véritable pauvreté, non pas ma volonté propre, mais l'agir divin à travers moi. La contemplation ne justifie aucune fuite du monde et de nos devoirs. C'est ici que la christologie écartienne se déploie comme ontologie du moi. En reprenant les analyses d'Alain de Libera, nous allons voir que la mystique en son acmé est l'assomption de l'homme, corps et âme, par un seul sujet, celui qu'est le Christ. Le détachement n'est rien d'autre que l'imitation de la pauvreté du Christ, entendue évidemment non pas au sens matériel, mais au sens ontologique. Parce que lui seul est homme et Dieu, sa chair du Christ, son humanité, qui, soutenant la nôtre, nous conduit à sa divinité, à notre divinité. À la pauvreté de l'homme répond l'extrême dénuement ontologique d'un Dieu abaissé. L'être du Christ sustente mon être anéanti. Par la grâce de son union hypostatique, il supporte mon incarnation. Image parfaite du Père, il réalise par sa mission temporelle en l'âme de l'homme l'union de l'homme à Dieu. Et c'est ainsi que maintenant on peut aborder le thème de la naissance éternelle du Verbe en l'âme, qui est notre deuxième point. Le Verbe prend naissance dans une âme émondée, épurée d'elle-même, ce qu'Eckhart appelle un homme pauvre. Le Verbe ne peut pas s'engendrer en l'âme si celle-ci n'est pas pure, vierge. Cette métaphore de la virginité et de la fécondité est reprise dans le sermon allemand 2 qui prend pour appui Luc 10, 38. Intravit Jesus in quodam castellum et mulier quaedam excipit illum. Celle par qui Jésus fut reçue ne pouvait qu'être vierge, écrit Eckhart. Vierge désigne un être humain qui est aussi vide de toutes les images étrangères, aussi vide qu'il l'était quand il n'était pas encore. Maintenant, faites bien attention et notez ceci avec zèle. Si l'homme restait toujours vierge, nul fruit ne viendrait de lui. Pour devenir fécond, il faut nécessaire qu'il soit femme. Femme est le mot le plus noble que l'on puisse attribuer à l'âme, et il est bien plus noble que vierge. Que l'homme reçoive Dieu en lui, c'est bien, et dans cette réceptivité, il est pur et sans tache. Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est mieux, car la fécondité du don n'est rien d'autre que la gratitude du don, et l'esprit devient femme dans cette gratitude qui, en retour, engendre, et dans laquelle, en retour, il fait naître Jésus dans le cœur paternel de Dieu. Les époux donnent rarement plus d'un fruit par année. Mais c'est une autre espèce d'époux que j'ai cette fois en vue. Je parle de tous ceux qui se sont attachés aux prières, aux jeûnes, aux veilles, à toutes sortes d'exercices extérieurs et de mortifications, comme à une propriété. Mais une vierge qui est une femme est libre. Elle n'est liée par aucune propriété et elle est en tout temps également proche de Dieu et d'elle-même. Elle donne beaucoup de fruits et ses fruits sont grands, ni plus ni moins que Dieu lui-même. Ces fruits et cette naissance, voilà ce que cette vierge qui est femme produit. Ce fruit, elle l'enfante et le porte chaque jour, 100 ou 1000 fois, un nombre incalculable de fois, ou pour mieux dire, du fond où le Père engendre son Verbe éternel qui la rend féconde et lui permet d'enfanter avec le Père. Je l'ai souvent dit, il y a dans l'âme une puissance qui n'est touchée ni par le temps, ni par la chair, qui émane de l'esprit, et reste dans l'esprit et est absolument spirituel. Dans cette puissance, Dieu se trouve totalement. Il y verdoie et fleurit dans toute la joie et toute la gloire qu'il est en lui-même. Car le Père éternel engendre toujours son Fils éternel dans cette puissance, en sorte que cette puissance collabore à l'engendrement du Fils et d'elle-même en tant que Fils dans l'unique puissance du Père. Dans cet extrait, Eckhart parle d'une lumière qui émane de l'esprit et reste dans l'esprit. Plus bas dans le texte, il parlera d'une puissance dans l'esprit, une garde de l'esprit, une lumière de l'esprit, une petite étincelle. Savoir ce qu'est l'esprit, ce lieu où Dieu prend naissance, demande de bien saisir la différence entre ce qui reçoit la naissance et la naissance elle-même, entre la disposition naturelle prédisposée à la naissance, qui est l'altération, et son plein épanouissement ou entéléchie ou activité dans l'opération de la naissance qui est la génération. À savoir que il y a une disposition à la naissance qui est de l'ordre de l'altération, puis lorsque cette naissance advient, on est dans la génération. On expliquera ça par Zoom, si vous voulez. Eckhart reprend l'idée originienne d'une naissance perpétuelle et non ponctuelle. Le Verbe s'engendre en l'âme, non pas une fois pour toutes, mais éternellement. L'homme, devenu fils adoptif de Dieu, naît toujours et est toujours né de Dieu. La génération du Fils dans la vie divine ne peut se dire au passé, puisqu'elle est éternelle et permanente. L'emploi du passé ne peut rendre compte de cette durée de l'éternité et pourrait donner à concevoir un fils qui a été engendré, mais a cessé de l'être une fois la naissance achevée. Cette naissance, cette génération, puisqu'elle est éternelle, ne concerne pas l'événement de l'incarnation, mais le Fils en tant que sagesse éternelle du Père au sein de la Trinité. Cette naissance éternelle se réitère dans l'âme du juste. La génération du Fils dans la divinité est pensée dans sa relation avec sa naissance en nous. Elle a lieu dans l'âme des saints de l'ancienne alliance. Elle n'est donc pas une conséquence historique de l'incarnation, mais un événement qui est pensé à partir de l'éternité et non du temps. Le Verbe est venu dans le monde pour aucune autre raison que de venir en chacune des âmes disposées à le recevoir. Le Christ, en qui cette naissance a eu lieu de façon plénière, est donc le modèle de toute divinisation. Le Fils naît toujours, et c'est la raison pour laquelle il naît au présent. Le présent divin est réitéré et manifesté dans le présent de l'engendrement de l'âme. Ce présent est l'instant de la divinisation, de même nature que l'éternité dans laquelle le Père engendre le Fils. L'homme vertueux, l'homme pauvre n'est pas celui qui a pâti, mais qui perpétuellement pâtit Dieu, de la même façon que le Père n'a pas engendré le Fils, mais l'engendre éternellement. En Dieu, il n'y a ni passé ni futur, mais seulement le présent. Passé et futur sont le propre des réalités créées, qui manquent d'être, qui ne possèdent pas l'être véritablement divin. C'est la raison pour laquelle l'engendrement du Fils en l'âme ne peut se dire qu'au présent, un présent qui ne serait pas le lien évanescent de jonction entre passé et futur, mais un présent qui est un instant sans temporalité qui ressortirait de l'éternité. Chez le Descartes, le thème de la naissance du Verbe en l'âme, thème d'origine origénienne, constitue, parce qu'il est le point culminant et unifiant de son anthropologie, de son ontologie et de sa noétique, c'est-à-dire la théorie de l'intellect, le centre de sa pensée. Tous ces développements philosophiques et théologiques sont autant de propédeutiques pour asseoir cette unique fin, que Dieu naisse en l'âme. L'œuvre allemande nous en donne les voies d'accès en parlant du détachement, de l'homme délaissé, du néant divin et humain, etc. Elle ne vise que cette naissance. Voici donc, de nombreux sont donc les sermons allemands dans lesquels Eckhart évoque cette naissance. Voici des exemples. Le premier sermon allemand. Pour que Jésus parle dans l'âme, il faut qu'elle soit seule, il faut qu'elle se taise pour entendre parler Jésus. Eh bien, il entre donc et commence à dire quelque chose. Que dit le Seigneur Jésus ? Il dit ce qu'il est. Qu'est-il donc ? Il est un Verbe du Père. Dans ce même Verbe, le Père se dit lui-même. Il dit toute la nature divine et tout ce que Dieu est, comme il le connaît. Et il le connaît comme il est. Et puisqu'il est complet dans sa connaissance et dans sa puissance, il est également complet dans son dire. En disant le Verbe, il se dit lui-même et toute chose en une autre personne et donne au Verbe la nature qu'il a lui-même. Et dans le même Verbe, il dit tous les esprits doués d'un intellect comme étant à la fois semblables en image à ce même Verbe, dans la mesure où ce Verbe vit à l'intérieur et comme n'étant pas semblable en tout point à ce même Verbe en tant qu'il projette sa lumière au dehors, puisque chaque esprit est pour soi. Mais ces esprits ont reçu le pouvoir d'acquérir, du fait de la grâce, une égalité avec ce même Verbe. Et ce même Verbe, tel qu'il est en lui-même, le Père l'a dit complètement. Le Verbe est tout ce qui est dans le Verbe. Le Père ayant ainsi parlé, que dira donc Jésus dans l'âme ? Ainsi que je l'ai déjà dit, le Père dit le Verbe et dit dans le Verbe. Il n'a pas d'autre façon de dire, mais Jésus, lui, dit dans l'âme. Le mode de son dire, c'est qu'il se révèle lui-même et qu'il révèle en même temps tout ce que le Père a dit en lui, à proportion de ce que l'Esprit est capable de recevoir. Dans le sermon 24, voilà ce que dit Eckhart. C'est pourquoi, si tu veux être le même Christ et être Dieu, détache-toi de tout ce que le Verbe éternel n'a pas assumé en soi. Le Verbe éternel n'a pas assumé en soi un être humain. C'est pourquoi détache-toi de ce qui est homme en toi et de ce que tu es, et assume-toi seulement selon la nature humaine. Ainsi tu seras le Verbe éternel, ce que la nature étant humaine. Ainsi tu seras dans le Verbe éternel, ce que la nature humaine est en lui. Car ta nature humaine et la sienne n'ont pas de différence. Elle est une. Ce qu'elle est dans le Christ, elle l'est en toi. Le sermon allemand 101. Ici commence pour nous le temps de la naissance éternelle que Dieu le Père a engendré et qu'il engendre toujours dans l'éternité, de telle sorte que cette même naissance soit engendrée maintenant dans le temps, à l'intérieur de la nature humaine. Saint Augustin dit que cette naissance se produise toujours, mais qu'elle ne se produise pas en moi. En quoi cela peut-il bien m'aider ? En revanche, qu'elle se produise en moi, cela a beaucoup d'importance. La formule bien frappée de l'inutilité d'une naissance éternelle de laquelle l'âme serait exclue se retrouve exprimée dans d'autres textes, en d'autres termes dans le sermon allemand 5b, dans lequel le Christ, notre frère, est celui qui nous rend égal à lui. L'amour de Dieu pour nous s'est montré et nous est apparu, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions avec le Fils et dans le Fils et par le Fils. Car tous ceux qui ne vivent pas par le Fils ne vivent vraiment pas droitement. À quoi me servirait-il d'avoir un frère qui serait riche si en même temps j'étais pauvre ? À quoi me servirait-il d'avoir un frère qui serait sage si en même temps j'étais fou ? Nous atteignons le cœur de la pensée de Maître Eckhart qui lie de manière nécessaire grâce de l'incarnation et grâce d'inhabitation. Nous retrouvons cette idée dans l'œuvre latine d'Eckhart au paragraphe 117 du commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Il faut remarquer que, ainsi qu'on l'a dit plus haut, le premier fruit de l'incarnation du Verbe qui est le Fils de Dieu par nature est que nous soyons fils de Dieu par adoption. Car il serait de peu de prix pour moi que le Verbe se fût fait chair pour l'homme dans le Christ, en supposant qu'il soit séparé de moi, s'il ne s'était pas aussi fait chair en moi personnellement, afin que moi aussi je sois le Fils de Dieu. Car si tu es fils, tu es aussi héritier. Et peut-être est-ce ce que nous demandons à l'exhortation du Seigneur en Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire, de même que dans le Christ au ciel, la volonté du Père fut faite de telle sorte que fût le Fils, car, conformément à la nature, la volonté d'un Père en tant que Père est d'engendrer et d'avoir un Fils, de même aussi que soit faite la volonté du Père sur la terre, c'est-à-dire en nous qui habitons sur terre, afin que nous soyons fils de Dieu. Romains 8, vous avez reçu l'esprit d'adoption des fils de Dieu. Et plus loin, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Et encore plus loin, ce qu'il prédestina à être conforme à l'image de son Fils, afin que lui-même fût le premier parmi beaucoup de frères. Et c'est ce qui est dit ici. Le Verbe s'est fait chair, à savoir dans le Christ premier engendré, et il habitait en nous, comme nous sommes engendrés fils de Dieu par adoption. Aussi est-il dit plus bas, au chapitre 16e, « Je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. » Car Dieu nous vit lorsqu'il fut fait homme dans le Christ, et il nous voit de nouveau en nous adoptant pour fils et en habitant en nous comme le Père dans ses fils. C'est ce que signifie le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. En s'incarnant, Dieu a révélé aux hommes son Fils. En prenant notre nature humaine, il l'a assumé afin que, en le suivant par le détachement de nous-mêmes, nous puissions être par grâce ce qu'il est par nature. Ainsi, nous devenons fils à la suite du Fils. Je vous remercie de votre attention.